s'appuyer sur l'histoire de la dette, dégager des solutions nouvelles. La solution proposée ici consiste à faire confiance à la démocratie parlementaire. Seule une délibération publique, contradictoire et pluraliste, peut permettre d'apporter la légitimité nécessaire pour de telles décisions et de s'adapter en temps réel à l'évolution de la situation économique, sociale et politique. Il est temps de revenir sur l'idée fausse inventée lors du traité de Maastricht en 1992 et exacerbée lors du TSCG de 2012, selon laquelle on pourrait créer une monnaie commune sans démocratie parlementaire, sans dette commune et sans impôts communs, en se contentant d'appliquer des règles budgétaires automatiques. Dans le schéma proposé, l'Assemblée européenne serait compétente pour décider d'une mise en commun du taux de refinancement des États pour toute partie de leur dette et du rythme futur de remboursement et de rééchelonnement de cette dette. Cela implique également que les pays souhaitant bénéficier du titre de dette commune et du taux d'intérêt commun doivent se soumettre aux décisions majoritaires de l'Assemblée européenne, dans laquelle chaque pays n'aura par définition qu'un poids limité. S'ils souhaitent conserver seuls la souveraineté sur leurs dettes et leurs déficits, alors ils ne pourront bénéficier du taux d'intérêt commun. Sur la partie de la dette qui sera mise en commun, l'Assemblée européenne sera libre de choisir le rythme de remboursement et de rééchelonnement. Une solution pourrait consister à se placer durablement dans une situation d'équilibre primaire. Les impôts couvrent les dépenses, ni plus ni moins. Cela équivaut à un rééchelonnement de long terme du remboursement des dettes. Dans la mesure où le taux d'intérêt sur la dette commune sera bas et où l'action de la BCE, qui sera naturellement amenée à détenir une part significative de ses titres de dette commune, contribuera à conserver ce taux à un bas niveau, par-delà les soubresauts des marchés financiers, et où la croissance nominale à venir sera sensiblement plus élevée, ce qui n'est pas acquis, alors le stock de dette passée finira par représenter une proportion de plus en plus faible du produit intérieur brut au cours des décennies à venir. Certains pourraient être tentés de vouloir graver dans le marbre cette règle d'équilibre primaire. Après tout, à partir du moment où l'on se donne la possibilité démocratique de mettre en place des impôts justes, en particulier avec la possibilité d'une adoption par l'Assemblée européenne d'impôts sur les hauts revenus et patrimoines s'appliquant à tous les pays signataires, l'idée de couvrir les dépenses par les impôts est en règle générale un excellent principe. Le problème est que, dans certaines situations, liées par exemple à une crise économique abaissant massivement et temporairement les recettes fiscales, cette règle est de toute évidence trop rigide. Il en va de même dans une situation où les taux d'intérêt à long terme seraient inhabituellement bas, comme actuellement, ce qui laisse penser que les investisseurs privés manquent de projets d'investissement. Et où la puissance publique serait à l'inverse en capacité d'impulser des investissements stratégiques pour l'avenir. Cela peut concerner au premier chef la transition énergétique et le réchauffement climatique, ainsi que la recherche et la formation. La question de savoir dans quelle mesure et avec quelle ampleur la puissance publique est capable d'identifier et d'organiser de tels investissements est certes extrêmement complexe. Il reste qu'il faut bien trouver des instances légitimes pour décider si nous sommes ou non dans de telles situations. En l'absence d'une expérimentation contraire, rien ne permet de penser que l'on puisse faire beaucoup mieux qu'une délibération pluraliste et publique dans le cadre d'une enceinte parlementaire, suivi d'un vote entre représentants élus dans les plus grandes conditions d'égalité possible. L'idée, selon laquelle il pourrait être préférable de remplacer tout cela par des règles rigides et automatiques, hypothèse qu'aucune expérience historique ne permet pourtant d'accréditer, relève d'une forme de nihilisme démocratique. En pratique, l'Assemblée européenne pourrait également décider d'accélérer la résorption des dettes en adoptant des mesures spécifiques, par exemple des prélèvements progressifs et exceptionnels sur les patrimoines privés. De telles mesures ont joué un rôle significatif et positif à l'issue du Second Conflit mondial et dans les années 1950 pour réduire rapidement les dettes publiques et pour dégager des marges financières permettant à la puissance publique d'investir dans la croissance et la reconstruction, notamment en Allemagne et au Japon. Si l'on examine avec recul ces expériences, l'élément le plus problématique de la panoplie de méthodes qui avait alors été utilisée concerne sans nul doute l'inflation, qui avait certes contribué à réduire l'endettement public à marche forcée, mais au prix d'une spoliation brutale d'une partie de l'épargne des classes populaires. Dans ces conditions, il paraît justifié à la lumière de ces expériences de maintenir une cible d'inflation faible dans le mandat de la BCE et de se concentrer sur les mesures qui ont fait leurs preuves, notamment en termes de fiscalité progressive, avec cette fois-ci une coordination explicite au niveau européen, aussi bien pour ce qui concerne le rééchelonnement de long terme des dettes, avec notamment le rôle de la BCE pour stabiliser les taux à des niveaux très faibles, que pour des mesures fiscales exceptionnelles, possiblement adoptées par l'Assemblée européenne. L'Assemblée européenne pourrait décider de prolonger le rééchelonnement des dettes sur une longue durée, par exemple le temps que les pays de la zone euro aient retrouvé un niveau d'emploi et une trajectoire de croissance correcte par comparaison à l'avant-crise, en particulier en Europe du Sud et plus généralement au niveau de la zone dans son ensemble. Elle pourrait également décider que le rééchelonnement durera tant que des progrès suffisants n'auront pas été réalisés sur d'autres objectifs jugés plus prioritaires, comme le réchauffement climatique, ce qui paraîtrait assez justifié. En pratique, un rééchelonnement de long terme avec taux d'intérêt nul ou quasi nul et non-indexation sur la croissance réelle ou l'inflation conduit de facto à une forte baisse de la valeur des dettes par rapport au PIB au bout de quelques décennies, ce qui à terme conduit à dédramatiser les enjeux posés par l'annulation partielle ou totale de ces dettes. C'est par exemple ce qui s'est produit historiquement avec la dette extérieure allemande gelée en 1953 à la conférence de Londres et finalement annulée en 1991. Concluons en insistant sur le fait que l'objet ici n'est pas de décider à l'avance de la marche à suivre, mais plutôt d'illustrer le besoin de se donner une instance démocratique à la légitimité incontestable, comme l'Assemblée européenne, reposant à la fois sur les députés des parlements nationaux et du Parlement européen, afin de pouvoir prendre les décisions complexes qui s'annoncent. L'idée selon laquelle les problèmes considérables posés par les dettes publiques en Europe vont être réglés par l'application mécanique du traité budgétaire adopté en 2012, qui, en gros, prévoit que les contribuables modestes et moyens des pays européens vont paisiblement accepter de dégager d'énormes excédents primaires au cours des décennies à venir, manque totalement de réalisme. La crise de la dette a exacerbé depuis 2008 des tensions anciennes entre pays européens et a fini par créer des incompréhensions et des méfiances réciproques de plus en plus vives entre les principaux pays à l'origine de la construction européenne et notamment entre l'Allemagne, la France et l'Italie. Il y a là le potentiel pour des ruptures politiques graves, voire pour une dislocation de la zone euro. Si l'on continue de prétendre régler ces problèmes dans le huis clos des réunions de chefs d'État et de ministres des Finances et des rapports de force purs et durs, il est probable que l'on s'achemine vers de nouvelles tensions. Seule la constitution d'une véritable démocratie parlementaire transnationale offre la possibilité d'un examen approfondi et au grand jour des différentes options possibles, sur la base des expériences historiques disponibles et d'un règlement durable des problèmes qui se posent. Des conditions politiques de la transformation sociale fédéraliste de l'Europe. L'avantage de l'approche sociale fédéraliste qui vient d'être présentée est qu'elle permet en principe à un noyau de pays européens qui souhaitent aller vers une union politique et fiscale renforcée, appelons-la l'Union parlementaire européenne, UPE, pour la distinguer de l'UE, d'avancer dans cette direction sans remettre en cause l'Union européenne à 27 ou à 28. Idéalement, le noyau initial de l'UPE devrait comporter les quatre plus grands pays de la zone euro, Allemagne, France, Italie, Espagne, et au minimum deux ou trois d'entre eux pour que cette union renforcée soit viable. Le mieux serait que la quasi-totalité des pays de la zone euro y adhère d'emblée, mais il peut aussi exister des pays hors zone euro qui souhaiteraient participer plus rapidement à l'union renforcée que des pays membres de l'euro. Que le noyau initial composant l'UPE comporte 5, 10 ou 20 pays, rien n'interdit en théorie à ce système de coexister paisiblement et durablement avec l'UE pendant le temps qu'il faudra pour convaincre tous les pays de rejoindre l'UPE, permettant ainsi de réunifier les deux structures. Pendant la phase transitoire, les États membres de l'UPE participeront à la fois aux instances et dispositifs créés par cette dernière, à commencer par l'Assemblée européenne et le budget alimenté par des impôts communs qu'elle adoptera, et aux institutions et politiques de l'UE. Si les membres de l'UPE parviennent à démontrer que leur union renforcée fonctionne correctement et permet de commencer à combler le déficit européen de justice fiscale, sociale et climatique, alors on peut espérer que la quasi-totalité des États membres de l'UE rejoignent l'UPE en quelques années, ou peut-être même immédiatement. Aussi souhaitable soit-il, ce scénario apaisé n'est malheureusement pas le seul possible. En pratique, il est probable que les États qui ont beaucoup misé sur le dumping fiscal, comme le Luxembourg et l'Irlande, se battront farouchement contre ce projet. Non seulement ils refuseront très certainement d'y participer, mais ils tenteront sans doute de faire capoter le projet, en arguant que la constitution d'une telle union renforcée serait une violation des traités existants, voire en allant porter plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, au motif que seule une révision générale des traités européens, réclamant donc l'unanimité des pays, permettrait de mettre fin à la règle de l'unanimité fiscale et de créer une assemblée européenne autorisant la prise de ces décisions portant sur la fiscalité à la majorité. L'argument selon lequel il faudrait l'unanimité pour mettre fin à la règle de l'unanimité peut certes sembler particulièrement spécieux et sans issue. Mais les intérêts nationaux en jeu, ou perçus comme tels, sont si importants qu'on aurait bien tort de s'imaginer qu'un argument de ce type ne sera pas tenu. La CJUE, ayant validé en 2012 les traités intergouvernementaux adoptés pour faire face à l'urgence financière, après avoir constaté qu'il n'existait pas d'autre voie juridique viable pour sortir de la crise, on peut penser qu'elle ferait de même avec le traité de démocratisation de l'Europe ou un texte similaire, au nom de l'urgence démocratique et sociale. Cela étant, le droit n'est pas une science exacte et rien ne garantit que la CJUE donnera son aval, auquel cas les États porteurs du projet d'union parlementaire renforcée seraient contraints de prendre leurs responsabilités et de dénoncer les traités, c'est-à-dire de sortir des traités européens existants afin de contraindre les différents États signataires d'en renégocier de nouveau. Il faut également souligner qu'indépendamment des modalités permettant l'adoption d'un traité de démocratisation ou d'un texte similaire, la mise en place d'un pot commun au sein d'un noyau dur de pays entraînera presque inévitablement des tensions avec ceux choisissant de rester en dehors. En particulier, pendant la phase transitoire, les pays membres de l'UPE qui auraient adopté des impôts communs sur les bénéfices des sociétés, sur les hauts revenus et patrimoines et sur les émissions carbone seront naturellement amenés à demander une coopération exemplaire aux États non membres, notamment en termes de transmission d'informations sur les flux de profits transfrontaliers, les revenus et portefeuilles financiers et le contenu carbone des échanges. Sur la base des expériences passées, il est peu probable que cette coopération soit spontanément exemplaire. Il est probable que seule l'application effective de sanctions commerciales dissuasives permette d'obtenir les résultats souhaités. Par exemple, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, une bonne solution permettant de faire face à l'absence de coordination internationale suffisante pourrait consister à répartir les bénéfices mondiaux des sociétés multinationales en proportion des ventes de biens et services réalisées dans les différents pays, indépendamment du lieu où les profits sont officiellement et souvent fictivement localisés. Tout laisse à penser que des sanctions imposées avec détermination par les plus grands pays de la zone euro vis-à-vis du Luxembourg et de l'Irlande permettraient d'obtenir gain de cause très rapidement. Encore faut-il que cette détermination soit véritablement présente, d'autant plus que les pays sanctionnés ne manqueront pas, là encore, de dénoncer dans de telles sanctions des violations caractérisées des traités existants. Considérons par exemple la menace brandie par les États-Unis en 2010 de retirer aux banques suisses leur licence bancaire, ce qui a permis de débloquer la situation en contraignant l'État suisse à revoir partiellement sa législation bancaire et à transmettre au fisc états-unien les informations adéquates sur les contribuables états-uniens ayant ouvert des comptes dans les banques suisses. Dans le contexte européen, il est probable que si l'Allemagne, la France et l'Italie avaient adressé ou adressé à l'avenir de telles menaces à l'encontre du Luxembourg ou de la Suisse, alors ces pays ne manqueraient pas d'expliquer que de telles sanctions ne sont pas conformes aux traités européens existants. De telles sanctions sont malheureusement indispensables pour changer le cours des choses, et il est même probable qu'il faille les appliquer effectivement un certain temps pour avoir un réel impact. Pour résumer, Le véritable enjeu n'est pas juridique ou institutionnel, il est avant tout politique et idéologique. La question centrale est de savoir si les pays qui souffrent le plus de la concurrence fiscale, en particulier les pays de plus grande taille, France, Allemagne, Italie, Espagne, considèrent que l'enjeu est suffisamment important pour justifier une stratégie volontariste pouvant aller jusqu'à des sanctions dissuasives à l'encontre des pays non coopératifs, ce qui peut nécessiter une sortie unilatérale des traités existants. Jusqu'ici, l'approche suivie par la plupart des gouvernements et mouvements politiques, en particulier par les partis socialistes et sociaux-démocrates de diverses tendances au pouvoir dans ces pays, a été de considérer que la concurrence fiscale était certes un problème, mais qu'il était malheureusement impossible de le résoudre tant que le Luxembourg, l'Irlande et l'ensemble des pays concernés n'acceptent pas volontairement de renoncer à leur droit de veto. Or, il est clair depuis longtemps qu'une telle approche ne mène nulle part. La difficulté est que les gouvernements au pouvoir dans les grands pays ont jusqu'ici considéré que l'enjeu n'était pas suffisamment important pour prendre le risque de diviser l'Union européenne en créant des institutions politiques séparées, comme l'Assemblée européenne proposée ici, pour un sous-groupe de pays prêts à aller de l'avant. Les hésitations face à ce risque sont compréhensibles. Mais pour finir, les risques posés par le statu quo, à savoir un divorce définitif et potentiellement mortel entre les classes populaires et la construction européenne, me semblent supérieurs. On peut également penser que le processus de construction d'une souveraineté fiscalo-parlementaire transnationale et d'un espace de débat démocratique permettant d'organiser la délibération à cet effet est un processus fragile qui doit presque inévitablement débuter avec un nombre réduit de pays avant de pouvoir être étendu à d'autres, après en avoir démontré concrètement la viabilité. Autrement dit, si l'on attend pour lancer ce processus, qui aurait gagné à être entamé beaucoup plus tôt, que les 27 ou 28 pays soient prêts à aller de l'avant, il est probable que l'on attende indéfiniment. Au fond, si le processus n'a pas déjà eu lieu, c'est sans doute que de nombreux acteurs et mouvements politiques, en particulier en Allemagne et en France, au centre droit mais aussi au centre gauche, continuent de penser que les bénéfices de la concurrence fiscale, en particulier pour mettre la pression sur les États pour qu'ils évitent de devenir trop dispendieux dans un contexte où les niveaux de prélèvements obligatoires ont déjà atteint des niveaux historiques inédits, l'emportent sur les coûts associés à cette course-poursuite sans fin au profit des plus mobiles, ou tout du moins ne justifie pas les complications politiques considérables qu'impliquerait toute tentative d'y mettre fin. Un autre facteur idéologique tout aussi puissant est que la construction européenne s'est longtemps appuyée sur le droit sacro-saint des États à s'enrichir par le commerce et la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, puis à s'enrichir une seconde fois en siphonnant la base fiscale de ses voisins. Il s'agit là d'une construction idéologique très spécifique sur le plan historique et politique, et qui aboutit à enrichir les classes sociales élevées de tous les pays, y compris d'ailleurs allemandes et françaises, bien davantage qu'elles ne bénéficient aux classes populaires et moyennes, y compris irlandaises ou luxembourgeoises. Mais ce droit a été proclamé pendant tellement longtemps qu'il a fini par être perçu comme légitime. Concluons en notant que si le fait d'être prêt à sortir des traités est sans doute une condition nécessaire pour parvenir à en mettre en place de nouveaux, il ne s'agit nullement d'une condition suffisante. Depuis la crise de 2008, de nombreux mouvements politiques, comme Podemos en Espagne et LFI en France, ont développé l'idée d'une menace de sortie visant à imposer de nouvelles politiques en Europe, et en particulier l'harmonisation fiscale et sociale. Le problème est que ces mouvements n'ont jusqu'à présent pas indiqué précisément quel était le nouveau système politique qu'ils souhaitaient mettre en place en Europe. Pour résumer, on sait de quel traité il faut sortir, mais on ignore dans quel nouveau traité il faudrait entrer. Le problème de cette stratégie est qu'elle peut être aisément caricaturée comme anti-européenne par les mouvements politiques qui défendent le statu quo européen, et en particulier par les gouvernements au pouvoir en Allemagne et en France depuis la crise de 2008, et qui, de facto, instrumentalisent l'idée européenne pour imposer leur idéologie inégalitaire et leur refus d'impôts communs au niveau européen. Cela fournit un argument de poids pour disqualifier ces mouvements politiques aux yeux d'une opinion publique inquiète par la perspective d'un démantèlement de l'Europe et donc pour les empêcher de se porter au pouvoir. Par ailleurs, si ces mouvements y parvenaient néanmoins, par exemple en France, il existe un risque que la méfiance accumulée entre les différents États membres, en particulier entre la France et l'Allemagne, débouche de fait sur un processus de sortie chaotique et non maîtrisée des traités européens dans le cadre d'une trajectoire où les rancœurs et les incompréhensions entre pays finiraient par l'emporter sur l'attachement commun à l'idéal européen. L'autre risque, au moins aussi probable à mes yeux, est que cet attachement commun permette d'éviter le démantèlement, mais que l'absence d'engagement précis concernant les nouvelles institutions européennes et les contours exacts de l'harmonisation fiscale et sociale débouche finalement sur un compromis peu ambitieux et décevant, faute d'un débat public préalable et d'une appropriation citoyenne suffisante de ces questions complexes et néanmoins éminemment politiques.